Donc si vous voulez, moi je veux bien intervenir tout de suite parce que ça rejoint une préoccupation qui a été également apparente à propos de la légitimisation. La légitimation de la migration et du migrant. Et l'anecdote est absolument véridique. J'ai trouvé qu'à une époque migrataire, tout au début de son existence, sauf que notre laboratoire migrataire, qui avait 2 ou 4 ans, moi je ne sais plus, d'existence, s'est trouvé confronté en fait à la possibilité, enfin, d'une certaine manière, on n'était pas du tout maître, de continuer au CNRS ou de disparaître. Il avait obtenu la meilleure, meilleure opinion possible, plus le terme exact,
l'évaluation.
Ouais. Par contre, il était menacé par un classement de laboratoire plus important, plus élogieux, plus digne d'éloge plutôt, etc. Apparaissait également. Donc il était amené, dans l'urgence, à contacter le directeur des ressources humaines et sociales, CNRS, que j'allais voir donc directement. Et il a commencé par me dire, alors qu'on vient de loin quand même, il m'a dit, l'immigration, ce n'est pas un objet scientifique. Alors, j'ai essayé d'argumenter, évidemment, avec tout ce que je pouvais, mais ça montrait bien quand même la distance à l'intérieur d'une institution de recherche, à son plus haut niveau, entre un thème qui était émergent, enfin qui apparaissait déjà socialement, hein, politiquement même, et sa prise en compte par les responsables scientifiques. En fin de compte, il m'a dit, n'en faites pas Simon, on ne va pas vous désassocier. Alhamdoulilah. Mais voilà, et ça montre bien, vous voyez, je dirais un peu les remparts qu'il a fallu franchir pour arriver, ça confirme tout à fait ce que disait fort bien. Ce que tu disais, Paria, et donc vraiment c'était un combat à mener, quoi. Sur un certain plan, la réalité est venue la comporter. Personne ne dirait aujourd'hui cela.
On va trouver comme ça un bon d'abord merci hein, de votre présence ici, parce que vraiment vous nous permettez de voir les choses un petit peu autrement, la figuration, la construction, de l'imaginer à travers ces figures. Médiatique, et puis sur vous avez vu, tout à l'heure, dans un peu plus tôt, vous parlez de géo-épistémologie de l'émotion. Je trouve que là, il y a vraiment un vrai chantier à faire parce que chacun, Catherine l'a aussi soulevé, hein, soigné aussi à propos de la recherche. Conjonction aussi à la langue anglo-saxonne aussi, donc il y avait tous ces liens. Je pense que là, il y a un vrai chantier de réflexion à des mots, l'usage des mots, des catégories, et puis cette circulation des catégories et des notions. Alors, peut-il être puriste sur ce ou admettre que finalement c'est peut-être un bienfait que chacun se réapproprie finalement ses notions et adapter le fait au contexte national, à la situation dans laquelle finalement on les utilise différemment d'un pays à l'autre. Hein, je pense qu'on est, et d'une certaine manière, c'est une forme d'universalisme aussi, adapté, contextualisé. Voilà, mais enfin, bon, voilà, je retiens un beau chantier là, interdisciplinaire.
Mais ce que je voudrais préciser, c'est que chaque tradition nationale, pour parler rapidement, que chaque université nationale, que chaque académie nationale s'approprie les concepts qui circulent, certes, mais au nom de quoi? Au nom précisément d'une connaissance de cette géo-épistémologie. C'est-à-dire que nous sommes un certain nombre à considérer aussi la littérature comme une mémoire conceptuelle. C'est-à-dire que la littérature est ce répertoire de concepts qui, d'une certaine manière, reflète ou interroge une histoire nationale. Et donc, si j'interroge Victor Hugo, et actuellement je l'interroge pour un bouquin à venir, c'est parce qu'effectivement, Victor Hugo, en France, au XIXe siècle, lui-même sujet d'un exil d'une vingtaine d'années, je l'ai dit, etc., à l'intérieur de la connaissance que lui-même avait de la tradition qui le précédait, a forgé un certain nombre de concepts. Et nous en sommes héritiers. C'est-à-dire que oui, il y a par exemple un concept comme le transnationalisme qui est tout à fait fascinant, qu'il nous faut nous approprier, etc. Mais il y a aussi par exemple ce que Victor Hugo dit de l'exil. Ce texte de Victor Hugo qui s'appelle « Ce que c'est que l'exil », on ne le trouve pas. On le trouve que sur l'Internet. Il n'est pas publié. C'est un texte fondamental. Et c'est un texte de philosophie, c'est un texte de lexicologie, c'est un texte d'anthropologie, c'est un texte de sociologie, etc. Donc là, on a une définition faite par Victor Hugo de ce qu'est l'exil, datée évidemment, parce que tout d'un coup, il s'embarque sur l'éloge de la couronne britannique, Jersey, Guernesey, etc. Qu'importe, c'est daté. Mais là, il y a la mise en place d'une configuration conceptuelle qu'il nous faut nous réapproprier, parce qu'effectivement, nous l'avons perdue. Oui, pour justement pouvoir accueillir celui qui arrive. Et par exemple, ce qu'il est nécessaire de faire, effectivement, c'est de fonder philosophiquement, anthropologiquement, les concepts qui nous occupent ici. Je crois que ça par exemple, si ce matin je parlais de l'échec du discours sur le métissage, c'est parce qu'il n'a pas été fondé conceptuellement. On a improvisé quelque chose, on l'a hybridisé, créolité, etc., mais on ne l'a pas fondé conceptuellement. Alors, encore une fois, la littérature, quelqu'un comme Édouard Glissant, même si je ne partageais pas ses vues sur la créolisation qu'il opposait au métissage, et donc il menaçait mes droits d'auteur, il n'empêche que Glissant faisait un travail de fondation conceptuelle de la notion de créolisation, en lisant Deleuze trop rapidement, ben, qu'importe, mais en relisant Fanon, etc., etc. Voilà, il y a cette présence. Quand je disais encore tout à l'heure, Homi Bhabha préfaçant Fanon, ça dit bien que Bhabha, au-delà de ce qu'on peut lui reprocher, la carrière brillante sur les campus nord-américains, etc., est quelqu'un qui est capable, effectivement, de reprendre, de se réapproprier une tradition. Qui est-ce qui lit Fanon aujourd'hui? Qui est-ce qui lit Fanon?
Alors que ça vient d'être réédité. Ça,
oui, effectivement.
Il y a peut-être des lecteurs.
Tout à fait. Mais nous qui réfléchissons sur le parcours, notamment avec Stéphane Baquet, sur les exils des intellectuels, hein, le Fanon antillais qui va sublimer son antillanité en Algérie, enfin, etc. Il y a quelque chose qui épouse. Ça, on le sait peu, mais qui épouse une main d'Esprance. Et sachant parfaitement, il y a dans la correspondance de Fanon des pages sur le fait qu'il épouse une juive. Et donc le croisement de l'exil noir et l'exil juif donne une conscience politique, etc., etc. Mais Fanon, effectivement, malgré cette réédition, ou j'espère que cette réédition sera l'occasion d'une relecture, il faut le relire sur ce qui nous occupe ici même. Sur ce qui nous occupe ici, même.
Oui, moi j'avais deux questions, une pour Alexis et une pour Catherine. Comment, justement, dans votre réflexion, vous confrontez, au-delà, effectivement, et moi ça ne me paraît pas poser plus de problèmes que ça, la dimension, effectivement, vous l'avez dit, datée, que d'aucuns pourraient considérer comme anachronique, mais de la manière dont vous l'appréhendez, ça ne me paraît pas poser de problèmes. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à la communication de Soigny Poteau, qui a attiré notre attention sur le fait que on ne pouvait pas considérer, justement, de la même manière, des migrations, pour le dire vite, par le bas et par le haut. Et c'est vrai que dans votre réflexion, vous confrontez le Victor Hugo, qui relève plutôt d'une migration par le haut, ces migrations contemporaines, aux images qui effectivement inondent nos écrans de télévision, donc une immigration plutôt par le bas. Donc comment justement vous entendez, comment vous avez entendu plus exactement la réflexion qu'a fait notre collègue sociologue? Et j'avais une question pour Catherine concernant justement, tu évoquais le péril d'une certaine manière des concepts anglo-saxons, nord-américains. lesquelles, par exemple, qui te paraissent, justement inappropriées, ou en tout cas représenter le risque d'un écueil dans l'analyse.
Maintenant, il y avait Francesca.
Oui. Moi, j'avais une question à Madame Paul de Vanden au sujet de. Enfin, c'est une remarque, en fait. Ce que vous avez présenté, en fait, la migration comme vecteur de transgression de l'ordre national, et j'ajouterais aussi révélateur de transgression du droit international, c'est-à-dire que les États s'accommode aussi, utilise ou déroge au droit. On le voit avec cette construction de frontières en Hongrie, alors que c'est absolument interdit. Avec le fait qu'à un moment donné, ces migrants, par la directive de Dublin, leur dossier doit être étudié dans l'état d'arrivée, peuvent passer en Allemagne. Donc, ce n'est pas simplement un vecteur de transgression, mais ça montre aussi comment les États jouent avec le droit, jouent avec les catégories, jouent avec la dérogation et l'exception. On fait des exceptions, donc comment tout ça. Donc, c'est une réflexion par rapport à l'usage exceptionnel des dérogations, enfin, l'exception ordinaire, si on peut dire, dans l'utilisation. Qu'est-ce que vous en pensez Pas simplement comme vecteur, mais comme révélateur aussi de ces pratiques étatiques qui sont fluides aussi.
Je rajoute une petite question pour Alexis. Au début de ton exposé, tu as parlé de l'opposition entre Durkheim et Simmel, en évoquant la condition d'étranger de Simmel. Et je me demandais finalement qu'est-ce qu'apporte le terme d'exil par rapport à le terme d'étranger, pourquoi le choix de ce terme. Et je me pose aussi la question de savoir finalement qu'est-ce que c'est la littérature pour vous dans cette réflexion. Vous avez dit c'est à la fois un réservoir de notions, etc. C'est plus que ça, enfin, j'aimerais avoir un petit peu plus un approfondissement un peu là-dessus, même bref. D'autres questions? Dernier round de questions?
Pour. Continuez. Non, moi, pardon, il y a un ordre. Continuez. Continuez justement cette question, réservoir, et en particulier sur le thème. Qui est très riche aussi, vous avez donc bien, extraordinairement développé la question sur l'exil, mais en même temps, dans son rapport à la mort, mais aussi, n'y a-t-il pas évidemment la dimension affective dans le rapport à la terre, on va dire natale, au lieu d'origine, hein. La littérature, me semble, je parle de la fiction là, évoque dans ce nombre de ces ouvrages cet aspect aussi. Qu'en pensez-vous?
Oui, Cédric.
C'était une demande de précision pour évoquer Catherine Paul Benden sur les nouveaux concepts, les nouvelles conceptions de la citoyenneté. Je pense que c'est, on en parlait un peu ce matin, ça fait tout aussi. Médiévale et par exemple les choses qui ont été faites par la Boulafiat sur les immigrés ici,
plus fort. Plus fort.
Pardon, oui, c'était une demande de précision sur.
On a entendu le début de ta phrase, c'est la fin qui.
Notamment parce que la question de Bénizane m'a fait penser à un article de David Boulafiat sur les marchands méditerranéens à Londres.
Amine et après on arrête.
Une remarque à Alexis. Vous avez parlé de Simmel et j'avais plutôt en tête moi Alfred Schultz, voilà, figure d'exilé.
Oui. Et une petite question, un petit commentaire qui rejoint un peu ce que vous avez dit sur le rôle des États, c'est-à-dire que je me posais un peu la question du rapport. l'apport des études migratoires ou de la sociologie, de la géographie ou de l'histoire à d'autres domaines de recherche de cette discipline. Je pense notamment, on évoque un peu l'État-nation de manière comme si c'était une donnée un peu invariable. Et en fait, quand on voit qu'il y a des stades de développement très différents, naturellement, que la construction de l'État, ou la formation, la construction consciente ou inconsciente de la construction de l'État, sont très différentes selon les pays, de ce que vous avez dit, la nécessité de contextualiser aussi ce processus-là. Et donc, je pense notamment à la sociologie de l'État, et donc comment les études migratoires peuvent nous permettre de regarder ce qu'on évoque comme l'État-nation d'une autre manière, de voir aussi que les États incluent finalement des pratiques transnationales dans leur fonctionnement, évoquées par l'État transnational. Et voilà, donc voir un peu comment est-ce qu'on peut utiliser ces études migratoires pour parler d'autres choses. Et est-ce qu'il y a des réflexions en cours qui nous permettent d'interroger notamment la question de l'État-nation, de la construction?
Merci. Bon, alors,
comme vous
voulez. La question de Stéphane sur le péril des grands débats. Merci. Sur le péril des concepts anglo-saxons, alors tout d'abord, moi je dirais la notion d'ethnicité. La notion d'ethnicité, c'est une catégorie qui est très utilisée chez les anglo-saxons pour analyser la société, ce qui n'est pas toujours le cas dans les pays. Disons non anglo-saxons par définition, et ça a tendance peut-être à exacerber un certain type de regard et d'analyse qui sont parfois du social. C'est-à-dire que si on ethnicise trop, je prends par exemple l'exemple des banlieues, on ne voit plus la dimension sociale de toute une série de mobilisations collectives qui ont été analysées, et on fait tout passer sur un regard qui serait sur la question de l'islam ou qui serait sur la question, comme ça a été fait par Hugues Lagrange, sur est-ce que c'est ça a tendance à inscrire les gens dans une sorte de, disons, de logique inscrite par leur appartenance et qui serait une fois pour toutes déterministe. Donc il y a un certain déterminisme de cette approche ethnicisante qui ne correspond peut-être pas à toute une série d'analyses autre qu'on peut faire avec un autre regard sur la société. Donc je suis un peu inquiète parce que ça peut être dangereux, ça peut être une analyse un peu fataliste et trop déterministe. La notion de race aussi, la notion de race très utilisée dans les travaux anglo-saxons qui ne sont pas, pour des raisons historiques diverses, mais qui ne sont pas interprétées de la même façon dans d'autres pays européens. La notion même de citoyenneté. En France, notamment, on a une définition de la citoyenneté qui précisait une référence à la science politique, alors que dans le concept anglo-saxon, c'est plutôt le droit de la nationalité. Donc là, il y a une certaine incompréhension. Et puis alors, toute la logorée, si j'ose dire, des termes de politique publique qui envahissent aujourd'hui beaucoup de travaux de sciences politiques, empowerment, sustainability, past dependency, et toute une série de choses comme ça, qui finalement donne une espèce de soupe, si j'ose dire, mais c'est ça le résultat, une soupe que l'on trouve un petit peu partout, aussi bien dans des rapports publics d'expertise que dans des analyses, y compris utilisées par des étudiants pour analyser telle ou telle politique publique, souvent internationale. Là, ça crée finalement une espèce de terme obligé qu'on se croit disons devoir utiliser alors que ça n'ajoute rien à quelque chose, et on se gargarise de ces termes sans que ça ait vraiment un surplus d'intelligibilité. Alors sur la transgression, tout à fait d'accord, il y avait un colloque qui avait été fait il y a quelques années par la faculté de droit de Toulon sur la thématique de la transgression, où il y avait une dimension migration. Alors c'est vrai que les États dérogent au droit, les migrants contournent aussi le droit, et c'est leur réponse bottom-up, si j'ose dire, en la matière. Alors sur la Hongrie et Dublin, mais ce sera un autre colloque, mais la Hongrie, tout pays européen membre de Schengen a le droit de fermer ses frontières pour une période courte, qui est, ça fait partie du code Schengen. Hein. Et en fait, à condition qu'il y ait une situation d'urgence. On a fermé par deux fois la frontière à Vintimille face à l'arrivée des Tunisiens, et puis à nouveau les subsahariens en juin dernier. C'est tout à fait possible, si j'ose dire, d'un pays européen à l'autre. Sauf que pour la Hongrie, c'était encore un autre sujet, puisque c'était une frontière européenne, la Hongrie, la Serbie, qui n'est pas une frontière de l'Union européenne. Mais ça, c'est tout à fait légal, à condition de justifier la situation d'urgence. Sur Dublin, maintenant, on a un règlement Dublin 3 qui permet de ne pas appliquer Dublin 2, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on peut discuter de l'État vers lequel on va envoyer la personne en fonction des liens précisément transnationaux qu'il peut avoir avec tel pays, plutôt que de l'obliger à demander l'asile nécessairement dans le premier pays où il a mis le pied. C'est ce qu'on appelle le Dublin 3 2013. Mais en même temps, il y a beaucoup de... Le système qui paraît relativement rationnel, qui est le système de la politique européenne de l'immigration et de l'asile, est une série d'empilements, d'accords qui ont été adoptés un peu au fur et à mesure de l'histoire depuis 1985. Et en fait, on n'a pas construit un jour la politique européenne de l'immigration. C'est un empilement d'accords comme ça qui s'appelle pompeusement à l'acquis communautaire, mais dans lesquels il y a des tas de dérogations. L'opting out, par exemple, encore un terme anglo-saxon, la possibilité de choisir quand est-ce qu'on va prendre telle décision. Ça donne une marge de manœuvre considérable aux États, parce qu'ils disent, moi je suis pas prêt. On a fait ça pour les pays de l'Est. Certains ont dit, on les prend tout de suite pour travailler, l'Angleterre, l'Irlande, puis après, d'autres ont dit, on se donne le maximum, la France, on attend 7 ans pour leur donner accès au marché du travail. En attendant, il y a plein de marché du travail au noir qui se constitue, etc. Donc il y a des quantités de contournements du dispositif européen, sans parler de ce qui est complètement hors la loi. Beaucoup de pays, dont la France, sont souvent condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme et par la Cour de justice de l'Union européenne pour leurs pratiques à l'égard des migrations et leurs violations du droit. Alors sur la nouvelle citoyenneté, il y a des tas de travaux qui ont été faits là-dessus. Il y a d'une part des hiérarchies de citoyens, si j'ose dire, entre les sans-papiers jusqu'aux nationaux citoyens des pays où ils vivent, qui est une définition européenne d'une certaine façon de la citoyenneté, et en passant par après les sans-papiers, il y a les demandeurs d'asile, et puis après il y a les non-communautaires, etc., de courte durée, les non-communautaires de longue durée, puis après on a les Européens, et puis ensuite on pourrait continuer à l'infini. Et l'analyse de sciences politiques PhIL a permis aussi d'affiner les contenus de ces citoyennetés. Et puis il y a un autre aspect aussi qui est assez intéressant, qui a été amené par la migration dans la science politique, dans la réflexion, c'est la dissociation entre citoyenneté et nationalité. Notamment dans toutes les expressions politiques de la nouvelle citoyenneté, ce qu'on appelait, il y a le fait de fonder la citoyenneté sur les valeurs révolutionnaires de la participation. Donc ça ouvre la citoyenneté au sens large à des tas de gens qui participent. On peut dire les sans-papiers, dans le bouquin de Johanna Siméan, La cause des sans-papiers, on voit des gens qui se mobilisent, etc. Donc c'est des citoyens, ils sont participants, etc. Donc c'est ça la thématique de la nouvelle citoyenneté. Ce qui fonde la citoyenneté, c'est pas la nationalité, c'est la participation aux affaires qui vous concernent. Donc ça a créé des catégories nouvelles de citoyens, au sens du citoyen révolutionnaire de 1789, ce qui, à l'époque, la nationalité, ce n'était pas l'aspect le plus important. On a fait citoyen, on a élevé à la qualité de citoyen, comme on disait à l'époque, des étrangers comme Thomas Paine et des gens qui avaient siégé dans des assemblées constituantes, ou Anna Cardis-Klotz, parce qu'ils étaient participants. Donc c'était la participation, c'était le contenu qui fondait la citoyenneté, et on a redécouvert ces valeurs avec les migrants et leurs formes d'expression et leurs revendications, etc., d'accès à la citoyenneté. Donc ça, c'est un aspect intéressant en la matière. Et sur la dernière question, flux migratoire, immigration et construction étatique, alors là, j'abonde dans votre analyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays européens, en tant que chercheurs, tous aujourd'hui réunis, on a essayé de... Finalement, je me disais, il y a une dimension surtout pédagogique. C'est-à-dire que la plupart des gens qu'on croise dans la rue, ils n'ont jamais appris l'immigration. Parce que c'est un sujet qui n'était pas appris à l'école. Donc, il y a une ignorance totale du phénomène. Et nous, on doit s'employer en permanence à essayer de bricoler dans un ensemble de disciplines un champ,
finalement celui des migrations, qui montre que l'histoire n'est pas, ou l'histoire, ou la science politique, enfin, toute une série d'éléments qu'ils ont appris ne fonctionne pas exactement comme cela. C'est-à-dire, parce qu'à l'intérieur, il y a des formes de dissidence, finalement, qui créent autre chose. Il y a des acteurs nouveaux, dont les migrants, etc. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est très important, parce que ça montre que la plupart des constructions politiques, et notamment la construction de l'État, s'est faite sans l'immigration, et surtout en Europe. Ailleurs, dans les grands pays d'immigration, de peuplement, l'immigration est souvent présente dans la façon dont les gens se représentent la nation. Donc, si vous allez en Argentine, eh bien, ils disent « on est tous sortis du bateau ». Donc l'immigration est constitutive et légitime, précisément. En Europe, elle est souvent illégitime, parce que les gens ne se représentent pas, alors que c'est la réalité, souvent. On vit sur le mythe de l'autochtonie pour les besoins de la construction de l'État-nation qui s'est fait pour beaucoup de pays européens au 19e siècle et avant pour la France et quelques autres. Donc en fait, ça c'est un élément très important. Ça explique en grande partie l'illégitimité de la place de l'immigration quant à la construction étatique. Et le seul exemple, contre-exemple que je pourrais vous donner, c'est l'exemple de la Catalogne. La Catalogne qui veut, être dans le state building, comme ils disent, nation building and state building. Donc d'abord on va construire la nation, puis ensuite on va construire l'État. Et dans leur définition du nation building, eh bien il y a l'immigration. Et ça c'est assez original. C'est-à-dire, l'immigration fait partie de leur définition de la construction de la nation catalane, parce que c'est une région de forte migration. Mais ailleurs on ne le voit pas beaucoup.
Brièvement, je continuerai en fait l'appel de Catherine sur cette nécessité d'une pédagogie de l'immigration. Donc, pour répondre à la question, effectivement, il y a migration par le bas, migration par le haut. Alors que moi, il y a une tentative justement d'articuler les deux expériences. Précisément les deux expériences, c'est-à-dire la perspective n'est pas la même. Sociologiquement et politiquement, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qui a été présentée cet après-midi. Mon propos est différent, c'est de dire que, justement, dans cette visée et dans cette vue pédagogique, je ne peux pas dire que Victor Hugo soit un migrant. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que Victor Hugo était un migrant pendant 20 ans à Jersey-Guernesey. Je ne peux pas. En revanche, je peux dire Victor Hugo était un exilé. Bon. Maintenant, celui qui arrive, appelons-le Eylan, en hommage, lui aussi, je peux dire que c'est un exilé. Donc si je choisis de parler de l'exil, je peux tout d'un coup articuler l'expérience de Victor Hugo à l'expérience d'Eylan. Et donc, dans un but pédagogique, de voir ce que cette littérature qui est nôtre nous apprend de cette expérience-là. Donc en fait, c'est une complémentarité des perspectives. Sur la question, alors effectivement, étranger, exil, donc effectivement. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est Nancy Green qui insistait sur l'historicité des pensées, l'historicité des concepts. Ce que dit Zimmel de l'étranger, c'est à peu près ce que je dis de l'exilé. Sauf que entre le début du XXe siècle et nos années 1914-15, l'étranger a été apprivoisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'étranger ne dérange pas. L'étranger fait partie d'un ordre du monde. Il y a une certaine économie de l'exotisation qui fait que, les étrangers sont là. Il y a une nourriture étrangère, il y a une production culturelle étrangère, il y a des films en version originale. Il y a même le dernier film au Festival de Cannes qui est dans une langue étrangère entièrement, en tamoul, etc. Donc l'étranger peut être intégré dans un ordre social. Je crois que l'exilé est précisément celui qui, parce qu'il est porteur d'un autre ordre social, va perturber l'ordre social d'accueil. Alors que l'étranger, le rôle de l'étranger, c'est d'occuper une fonction dans une société d'accueil sans la déranger. On revient au structuralisme d'une certaine manière, l'étranger a un rôle à jouer dans toute société. Dans toute économie sociétale, il y a nécessairement un étranger,
ne serait-ce que pour dire lui il est étranger, nous on l'est pas, on est chez nous. Alors que l'exilé est celui qui vient avec un autre ciel, une autre mémoire, une autre langue, une autre culture, et donc il vient perturber. Et c'est ce que dit exactement Zimmel de l'étranger à son époque. Donc, alors Schulz, effectivement, alors le propos est, je dois avouer que là la fatigue est dense, je me souviens plus très bien du texte de Schulz, mais j'analyse la différence dans mon bouquin. Bon. C'est que le texte de Schulz apparaît en anglais, qui n'est pas la langue dans laquelle Schulz a écrit son essai. Et c'est ensuite, 30 ans après, qu'il est traduit en allemand et qu'il est dans les œuvres complètes, qu'il est publié. Mais j'en parle dans le bouquin, mais je dois avouer, là je me souviens plus. Alors, qu'est-ce que la littérature, wow. Alors, qu'est-ce que la littérature, mais je voudrais quand même pas, non, je voudrais pas esquiver une formule. Je dirais que la littérature, pour moi, c'est la philosophie en acte, la sociologie en acte, l'anthropologie en acte, la géographie en acte, l'histoire en acte, à savoir un accès immédiat à une expérience que je dois connaître par un savoir qui s'appelle géographie, anthropologie, sociologie, parce qu'ainsi je peux mettre en perspective cette expérience-là, mais la littérature, c'est l'accès immédiat à cette expérience. C'est donc un phénomène d'intersubjectivité. Voilà, rapidement, c'est très mal. Et dernière question, la vôtre sur le rapport au lieu d'origine. Oui, alors la littérature exilique, puisque je suis en train de bâtir aussi ce concept de littérature exilique, alors, rapport au lieu. Qu'est-ce qu'elle nous apprend sur ce rapport au lieu d'origine? Alors, deux grands jalons de cette littérature exilique, les tristes d'Ovid et les regrets de Du Bellay.
Oui.
Hein,
bon.
Et ce qu'on s'aperçoit, et là, c'est la nostalgie pure, vraiment la nostalgie pure. Ce qui est intéressant, là, on parlait des Suisses, c'est vous qui parlez de la Suisse. Non, c'est. Le terme de nostalgie vient. Apparaît dans la littérature médicale à propos justement du mal psychologique dont étaient frappés les soldats suisses. C'est donc c'est intéressant. C'est 1860, quelque chose comme ça, apparaît le mot nostalgie dans un traité de médecine. Genre, les pauvres, bon, ils avaient le mal du pays, le coucou, le chocolat, nostalgie. Et c'est là que. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on prend ça, et on le prend aussi chez Victor Hugo, dans ce. C'est le rapport à la langue. Là, je réponds à la question que vous posiez dans le couloir. Je crois que la grande inconnue dans notre réflexion sur l'expérience exilique, c'est la part de la langue. Ce que dit Ovid, c'est... il parle des langues absolument abominables, mais j'ai peur de perdre mon latin, dit-il. Il est triste. J'ai peur de ne plus savoir écrire. Et Du Bellay dit exactement la même chose. C'est ce rapport à la langue que je crois qu'il nous faut nécessairement, et je crois que ce serait une grande part des études migratoires, des études sur la migration, que d'intégrer cette dimension.
Oui, mais est-ce que dans le rapport nostalgique au pays d'origine, il n'y a pas quand même quelque chose de la résilience et en fait de l'appel à la vie? De l'appel à la vie, non pas, du précipice vers la mort. Moi, je l'entends comme ça. C'est-à-dire que la nostalgie est riche aussi de capacité, de rebondissement, et je crois qu'il n'y a pas que cette dimension dans l'exil. L'exil amène à se reconstruire d'une autre façon. Pour ma part, ça a été l'étude des migrations.
Bon, ben, je crois qu'on peut applaudir tant l'assistance que...